à venir nous rejoindre, Renato Valkoviak. Bonjour. Vous menez un projet déjà ancien. Ça fait quelques années que vous êtes déjà venu nous voir. C'était le tout début de ce projet. Alors, je ne sais pas. Oui, il y a peut-être une petite vidéo qu'on va regarder ensemble. Ouais, donc, restez là, effectivement. Vous êtes directeur du LCS Tennis Club de Levallois, Sporting Club donc de Levallois, fondateur du programme Pink for Alzheimer, qui connaît un succès international, on va le voir. 63 clubs présents en France. Vous êtes également présent au Canada, au Chili, en Bulgarie, en Espagne, et j'ai entendu dire que l'Amérique latine vous ouvre les bras. Quel est le principe de l'activité et pourquoi un tel succès? On a envie de savoir, on a envie de voir.
Oui, merci. Alors, on va regarder la vidéo. Donc, en fait, je suis ravi d'être là parmi vous parce que c'est un retour. J'avais assisté aux entretiens il y a 3-4 ans où on présentait l'initiative et on essayait de promouvoir un peu cette activité. La promotion s'est plutôt très bien passée. Et justement, aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu des avancées. Et pour vous donner une petite idée, on commence par la vidéo. Alors, est-ce que c'est là ?
La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative et dans le cerveau de ces patients se déposent deux protéines qu'on appelle A-bêta et tau. Donc les neurones et les réseaux neuronaux doivent lutter contre la toxicité de ces protéines. Le fait de faire du ping-pong avec des séances qui sont configurées comme celle qu'a configurée Renato Valkoviak, ou qui ne sont pas que du ping-pong, ça permet d'avoir une stimulation à la fois sociale, avec des interactions sociales avec d'autres personnes, intellectuelles, puisqu'ils échangent entre eux, ils discutent entre eux, cognitives, on en parlera tout à l'heure, et puis le fait de faire une activité physique.
Tu vises ici. Mets la balle là, ok ?
Donc on s'adapte vraiment à l'état des malades, à l'état des aidants, à l'état psychologique, parce qu'ils ont une charge émotionnelle quand même assez forte. On est en train de créer un lieu de vie où ils se sentent bien. Ils arrivent ici, ils ont vraiment envie de jouer. Et en fait, rien que voir ce petit moment de bonheur dans leur semaine, c'est une grosse valeur pour nous. En termes de tennis de table, un peu plus précis, avec certaines situations, des exercices bien précis, avec un échauffement, avec des jeux d'équilibre pour stimuler un petit peu l'équilibre et essayer de les garder en autonomie le plus possible pour éviter les chutes. Donc on a composé un peu tout ça et en fait on s'est rendu compte avec la pratique que chaque semaine ils ne sont pas dans le même état d'esprit, ils n'ont pas la même ouverture ou pas de semaine en semaine. Les aidants, certains arrivent très fatigués ou d'autres jours ils arrivent vraiment bien. Donc en fait on s'est adapté plus ou moins à cet état-là humain pour pouvoir les accompagner différemment chaque semaine. Et certains aidants restent maintenant, même ils viennent des fois jouer sans leur malade en fait. Ils adorent venir jouer.
On vient une fois par semaine et c'est toujours avec plaisir. Et ça a été une surprise, quoi. C'est une surprise de l'effet. L'effet que ça a apporté à Corinne. Et je vois dans tout ce qu'on a étudié, ben, tant sur le plan sociabilité que sur le plan sportif, que sur le plan agrément. Voilà, c'est un bon moment passé. Voilà. Baisse, malgré l'atteinte de la maladie qui elle aussi progresse. Mais le ping-pong, son habileté au ping-pong se maintient et même progresse un petit peu. Et bien, oui, pour Corinne aussi, ce qui était très intéressant, c'est que le bien-être est social, en ce sens que le fait d'intégrer ce petit groupe de France Alzheimer lui a fait du bien. Elle est contente d'y retrouver tous les autres patients.
Le ping-pong, paraît-il que c'est très bien, très bon ce qu'on a dans la tête. Hein, donc voilà, faut avoir ça. Le ping-pong, paraît-il, c'est bon pour tout. Voilà. Donc bien sûr, on vient pour ça et pour s'amuser. Alors, je jouais au ping-pong quand j'étais jeune, très jeune même. 18-19 ans, j'ai arrêté. Et j'ai recommencé là, il y a un an et demi. Donc au début, j'avais un peu de mal. Mais après, c'est revenu quand même, pas trop mal.
Il y a eu plusieurs études sur la prévention du déclin cognitif et de la maladie d'Alzheimer, mais aussi sur le fait que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer et qui sont actifs évoluent plus lentement que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer et qui n'ont pas d'activité. Et quand je dis activité, c'est activité physique, bien sûr, activité sociale et activité intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse visuo-spatiale et l'adaptation de notre comportement, tant sur le comportement moteur, le déplacement, que sur la rapidité et la précision. Donc ça va activer toutes les fonctions cognitives visuo-spatiales. Ce qui est intéressant dans le ping-pong, c'est que ça ne nécessite pas des capacités physiques très importantes. Et en même temps, c'est très rapide. Donc en ça, c'est plus pertinent, parce qu'il y a une association d'activité physique, mais qui n'est pas très soutenue, un peu comme on pourrait le dire de la marche, mais avec une activité intellectuelle qu'on n'a pas, par exemple, dans la marche. Côté cognitif, physique, social, sans pour autant épuiser la personne.
Donc c'est un petit peu ce qu'on voulait mettre en avant, c'est un moment, évidemment, qui est cadré et encadré pour qu'ils puissent pratiquer en toute sécurité et que ça les stimule, mais qu'il y ait un moment qui soit encore plus fort humainement parlant pour qu'ici ils se sentent bien, les aidants se sentent bien.
Alors voilà, on voit beaucoup de sourires et on n'imagine pas que certaines personnes sont effectivement malades d'Alzheimer et parfois à des stades avancés.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, tout l'intérêt du début de ce programme, c'était d'inclure les personnes dans une association sportive, donc les clubs locaux de tennis de table, une maison de quartier où il y avait quelque chose, et d'inclure les aidants aussi, et d'intégrer aussi des joueurs de tennis de table locaux, et que tout le monde se mélange. Donc, on ne voit pas de différence qui est le malade, qui est l'aidant, qui est bénévole. On est tous là pour jouer. Donc, l'encadrant, il est formé pour ça. Son but, c'est vraiment de créer une stimulation cognitive la plus élevée possible, sans mettre en échec, tout en gardant cet esprit de groupe et de lien social entre les participants. Donc, alors je vais faire juste un petit récap rapide pour vous expliquer pourquoi on a commencé Ping for Alzheimer. Donc déjà, pourquoi le tennis de table ? Donc j'ai une question très importante pour vous. Qui ici a déjà joué au ping-pong ? Levez la main. Voilà, vous avez la réponse, merci. Donc en fait, non. Donc moi, j'ai toujours travaillé dans le tennis de table, donc je suis un professionnel du sport santé, j'interviens aussi à STAPS, la Sorbonne. Et en fait, l'idée du tennis de table, c'est d'abord d'approcher l'activité physique par un jeu. Donc on arrive par un jeu qu'on a tous pratiqué jeune, un sport qu'on a pratiqué en vacances. Donc c'est des bons moments autour d'un barbecue, c'est des moments avec des copains. Donc c'est un petit peu l'empreinte qu'on a du ping-pong au départ. Donc moi, j'ai eu ma grand-mère qui a été touchée par la maladie d'Alzheimer. Comme certains d'entre vous, j'ai été touché directement par ça. Et mon grand-père a énormément souffert en aidant le plus longtemps possible, même très très longtemps. Et de notre côté, en tant qu'aidant éloigné, on sent une petite frustration quand même parce que on a le quotidien qui prend le dessus et on se sent démuni. Donc quand j'ai entendu parler d'une étude japonaise dans les années 90 qui montrait que il y avait un réel impact sur l'hippocampe quand on joue au ping-pong, ça m'a attiré l'attention. Donc en gros, dans les années 90, ils ont fait de l'imagerie avant le ping-pong et après il y a eu une session de 3 mois de ping-pong toutes les semaines. Et on voyait à l'imagerie que l'hippocampe des participants, le volume avait légèrement grossi. Donc on s'était dit qu'il y avait une stimulation importante grâce au tennis de table. Déjà, l'activité physique, on savait déjà qu'il y avait un lien important et les bénéfices importants auprès des patients. Mais le ping-pong avait cette stimulation cognitive supplémentaire parce que c'est un jeu qui va vite. C'est un jeu où il y a beaucoup de variations. Il y a beaucoup de balles qui vont plus vite, moins vite. Il va y avoir des trajectoires de balles qui vont être différentes. Et puis, il va y avoir certains effets aussi et qu'on ne retrouve pas particulièrement dans des sports comme le tennis. Certaines personnes viennent me demander, mais pourquoi on ne fait pas de tennis ? Alors, le tennis, c'est bien. C'est-à-dire que, quelle que soit l'activité, il faut faire une activité. Mais le ping-pong, l'avantage, c'est qu'en une heure, vous allez toucher 3 fois plus de balles qu'au tennis. Parce que la personne, elle est debout, elle va avoir un panier avec plein de balles, on va jouer, ça va ramasser très vite. Et l'idée, c'est ça, c'est de garder la personne en jeu le plus longtemps possible. Parce qu'avec l'expérience, donc maintenant, je vous fais un petit point quelques années après le lancement, on se rend compte que certains patients ont des réels problèmes de concentration. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ils vont venir commencer une activité. S'il y a un petit temps mort de 2 secondes, ils sont partis. Ils sont partis se balader, je ne sais où. Donc l'idée, c'est ça, c'est de garder une activité où il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de rythme pour les maintenir focus à la table.
Est-ce qu'il y a un côté hypnotique dans la balle qui fait ping, boum, ping, boum?
Tout à fait. Ah oui ? Ouais, mais attends, là je suis à ma première slide, j'ai tout à raconter. Donc, On a lancé en 2018, donc ça c'était avant la vidéo. Donc le contenu, on l'a beaucoup développé avec des kinés, des psychologues qui étaient déjà pongistes, donc qui connaissaient un petit peu les enjeux et l'intérêt. Et ensuite, on a consulté certains neurologues qui étaient proches de France Alzheimer, parce que France Alzheimer 92, parce qu'on a commencé à Levallois, s'est rapproché de nous pour tester. Donc déjà, ils nous ont demandé, est-ce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec du ping-pong, avec les familles, avec les malades. Ils sont venus essayer. Et c'est là où ils nous ont fait un retour hyper positif parce que l'activité était très adaptée à tout profil de patient. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc on se base sur 3 piliers. Donc maintenant on sait qu'il y a 14 facteurs de prévention pour la maladie d'Alzheimer et 14 facteurs qui aident aussi à ralentir l'avancée de la maladie. Donc petite parenthèse, la Fondation a sorti un livre il y a peu de temps. Alzheimer n'est pas une fatalité, que j'ai lu avant-hier, et il est hyper intéressant.
Il parle de 14 facteurs. Il est hyper intéressant, vous pourrez le trouver à la sortie de la conférence.
Et on parle notamment de l'activité physique, des simulations cognitives, etc. etc. mais ils vont beaucoup plus loin dans le livre, donc je vous conseille d'aller l'acheter. Donc on s'est basé, nous, sur les 3 piliers qu'on connaissait bien, donc activité physique. Donc l'activité physique, on en connaît les bienfaits, ça améliore la neuroplasticité, ça oxygène le cerveau, ça stimule, donc stimulation cognitive, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc on essaye de créer un maximum de situations de jeu qui soient le plus variées possible pour stimuler cognitivement la personne. Donc ça va de la situation la plus basique possible où on enlève quelquefois le filet pour qu'il y ait réellement des échanges et que vraiment la personne reste face à la table, jusqu'au malade qui est en tout début de maladie, où on parle à peine d'Alzheimer, on est en train de parler de troubles cognitifs, et la personne, elle est en super condition physique. Et là, on y va et on leur fait des exercices vraiment plus stimulants et un peu plus intenses. Et donc, le troisième pilier pour nous, c'est les interactions sociales. Donc aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de créer un groupe à chaque fois, que ça soit au sein d'une institution ou au sein d'un club, où on intègre aidants, bénévoles, joueurs, et patients avec une maladie neurodégénérative. Donc ensuite, en 2019, nous avons montré ce programme à la Fédération internationale de tennis de table et on a eu une petite subvention parce qu'on répondait à un des objectifs de développement durable de l'ONU et ils nous ont aidés à promouvoir le programme. Donc en 2019, il y a une vingtaine de clubs de tennis de table qui ont lancé en France. Et donc maintenant, on est à beaucoup plus, mais ça, on va le voir après. Donc l'intérêt qu'a vu France Alzheimer, c'est qu'on arrive vraiment à intégrer des profils de patients très différents. Par exemple, ils nous disaient, les malades jeunes, souvent, ils ne veulent pas venir aux activités qu'on propose, parce qu'ils vont se retrouver à un café mémoire avec des personnes qui ont 25 ans de plus, et ils se disent, je ne veux plus y aller. Ils ne veulent pas aller au musée parce que c'est un peu plan-plan, ils ne veulent pas faire ci, ils ne veulent pas faire ça. Et à l'inverse, on en a d'autres qui n'arrivent plus ni trop à parler, donc ils ne peuvent plus aller chez l'orthophoniste, ils n'arrivent plus trop à comprendre ce qu'on leur dit, parce qu'ils sont déjà à une phase un petit peu plus avancée de la maladie, et tout ce qui est kiné, ils ne peuvent plus y aller. Donc, comme je crois que c'est Guy qui en a parlé tout à l'heure, c'est que, en fait, le ping-pong fait partie de la mémoire procédurale, donc c'est une des mémoires touchées le plus tardivement possible par la maladie. Donc il y a des personnes qui arrivent vraiment, on les voit dans des EHPAD, ils traînent un petit peu des pieds courbés, on se dit ils vont jamais pouvoir toucher une balle, ils prennent la raquette de ping-pong, on leur lance la balle, et tout de suite, c'est parti. Et c'est surprenant, même le personnel sur place qui les connaît depuis 5-6 ans est surpris. Donc on est vraiment sur une empreinte qu'on ne connaît pas dans le cerveau des personnes, de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, dans leur jeunesse, qui déclenche des choses. Donc certains vont aimer éplucher des patates, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est bien, parce qu'en fait, chacun va avoir son focus sur une activité auquel il est sensible. Le ping-pong, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes intéressées. Donc ensuite, nous avons aussi remarqué, et ce n'était pas prévu au départ du programme, l'intégration aussi inclusive des aidants. C'est-à-dire que les aidants prennent plaisir à avoir ce moment de partage, ce moment où, on ne va pas parler de lâcher prise comme tout à l'heure, mais c'est un moment où on passe les rênes à quelqu'un d'autre, On va s'amuser ensemble, on va passer un bon moment. Quelquefois, les dents, il va se poser pour travailler un petit peu. Quelquefois, il va partir pour faire le marché et revenir. Mais on arrive vraiment dans un contexte où les dents, il peut venir dans ce lieu de vie, partager un peu, partager plus, partager moins selon l'énergie qu'il a. Et on intègre aussi des bénévoles qui rentrent dans le bénévolat sportif grâce à des projets comme ça. Et non pas parce que la compétition leur plaît, mais surtout parce qu'il y a un impact social qui est hyper intéressant. Donc nous avons maintenant 70 lieux de pratique, dont 9 à l'étranger. Et on incite tous les établissements, que ce soit institutions ou clubs sportifs, à promouvoir tout ce qui est activité intergénérationnelle. Donc là, on voit intergénérationnel. Donc là, on voit un papy avec son fils, avec son petit-fils. Et l'idée pour nous, c'est pendant les vacances scolaires, leur dire, bah, venez inciter vos petits-enfants, vos enfants à venir jouer avec vous, parce que c'est votre club, c'est votre lieu, c'est votre table de ping-pong. Et vous allez échanger pendant 10, 15, 20, 30 minutes, quelquefois plus. On faisait une partie de ping-pong. Et encore, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas cette pression de devoir parler. On est là en train de partager une activité sympa. Il y a des sourires, ça rigole. Le grand-père, à un moment, il va sortir une anecdote autour du ping-pong que personne ne connaissait. Peut-être qu'il l'a inventé, mais ce n'est pas très grave parce qu'il y a une réelle discussion. Et donc, c'est ce qui permet aussi d'avoir ce média de connexion au sein des EHPAD. Par exemple, lors des visites, donc Guy aussi, tu l'as dit tout à l'heure avec le vélo, il y a un réel intérêt d'avoir un média de communication pendant les visites, que ce soit en accueil de jour ou en EHPAD, ou que vous soyez en train de créer un tiers-lieu, c'est qu'on a un média pour reconnecter les membres de la famille. Donc au lieu d'avoir le petit-fils qui vient pendant la visite et qui se pose avec Candy Crush pendant une heure, bah là, il va jouer au ping-pong. Et il va jouer au ping-pong, même 10 minutes. C'est incroyable. Et donc, c'est toute l'idée de pouvoir utiliser cet outil pour recréer des connexions sociales. Donc, dernière chose, je ne sais pas si c'est la dernière d'ailleurs, je vais accélérer un petit peu. Où on a remarqué vraiment des bienfaits sur la concentration, et c'est là où je reviens sur ce que tu as dit. Le ping-pong, il y a un réel effet hypnotique. C'est-à-dire que quelqu'un va éplucher des patates, il va rester focus, mais en fait, on s'est rendu compte, en parlant avec plusieurs neurologues, c'est que la concentration, c'est quelque chose qui peut s'améliorer, même chez des personnes qui ont des pathologies. Donc, c'est important de trouver à quoi ils vont être sensibles. Et il y a des patients, donc j'ai l'exemple toujours d'Étienne, malade jeune, 65 ans, hyperactif, à la maison, sa femme ultra motivée, et elle voulait lui faire plein de choses. Donc, à la maison, elle avait mis en place de la peinture, elle avait tout préparé. Il se met à peindre, et Étienne, il va peindre pendant 32 secondes, et après, il part. Avec la cuisine, c'est pareil. Donc lui, éplucher les patates, ça ne marchait pas. Donc il est venu au ping-pong. Ils arrivent et Étienne a joué 2 heures sans s'arrêter. Donc on a dû même l'arrêter parce qu'on lui a dit, là, 2 heures, c'est beaucoup quand même. Étienne, là, on y va tranquille. Parce qu'il avait toujours fait du sport, il avait été toujours très actif. Et la maladie a avancé très, très rapidement dans les premiers mois. Donc on a mis en place certains jeux de concentration avec du ping-pong, où on essaye de vraiment insister sur le rythme de la balle, sur la régularité du rythme. Et on a remarqué que certains patients qui avaient du mal à rester focus sur une activité ailleurs, avec le ping-pong, ils arrivent à rester 15 minutes sans bouger, 20 minutes, vraiment avec cette stimulation-là. Et on a associé, bah ça je ne l'ai pas dit la dernière fois, parce que je ne peux pas tout raconter, mais certains malades aussi, on associe la musique. Donc on met une petite enceinte Bluetooth à une table. Et en fait, comme ils ont du mal à avoir une seule stimulation, on va leur mettre la musique qu'ils écoutaient pendant leur adolescence. Et en fait, ils chantonnent pendant qu'ils jouent.
Il y a la table années 70, il y a la table disco. Et
ouais, il y a la table Michael Jackson et Carmen. Voilà, donc les derniers bienfaits qu'on a remarqués avec l'activité physique, mais c'est aussi valable pour les autres activités physiques, une personne qui est active pendant la journée va dormir mieux. Donc pendant les 2 jours qui suivent, les aidants nous disent que la personne est un peu plus calme à la maison, qu'elle dort mieux. Souvent, pour les maladies à corps de Lévy où le sommeil peut être compliqué, on a remarqué qu'il y avait des bienfaits pour le sommeil les 2 jours qui suivaient, et également pour les rythmes d'alimentation. Donc, on n'a pas encore d'études à très grande échelle, mais le premier retour des aidants sur les 70 lieux de pratique, c'est les choses qui reviennent. Donc, les 2 jours qui s'en suivent, on a une régulation un peu meilleure de l'alimentation et surtout du sommeil, parce que c'est des nuits dont on a besoin en tant qu'aidant. Donc voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant le programme, ce n'est pas juste un moment récréatif où on vient jouer au ping-pong, on met en place vraiment des exercices qu'on n'appelle pas exercices. Dans le programme, on appelle tout jeu, donc il y a des jeux d'équilibre, il y a des jeux de concentration, il y a des jeux... On ne fait que jouer. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer toute l'année cette activité aux résidents ou aux patients.
Toute l'année, donc, ça veut dire toutes les semaines dans les clubs avec des séances dédiées et former le personnel dans les établissements pour que ça devienne une activité du quotidien.
C'est ça. Donc en fait, il va y avoir au sein des EHPAD, des accueils de jour, il va y avoir du ping-pong quotidien. Donc tous les résidents ne vont pas en même temps. Certains l'utilisent aussi au moment du goûter. Il va y avoir un moment autour de la table de ping-pong où ça va jouer, les autres vont manger un petit peu, après ils vont rejouer, etc. Et aussi l'intégrer dans le moment de visite. Donc après, chaque lieu est très différent. Tout le personnel au sein des EHPAD n'a pas la même motivation. Et il faut essayer de trouver quelle est la meilleure façon pour que ça soit pérenne. Le but, c'est vraiment que ça soit pérenne. Si on veut vraiment que ça soit à but thérapeutique, il faut que ça soit très régulier comme pratique. C'est pas juste je viens jouer au ping-pong une fois toutes les deux semaines. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire ça. Donc, on a intégré des jeux d'équilibre. Donc, on parle beaucoup de rallonger l'autonomie en évitant les chutes. Donc, au sein des clubs, on sensibilise beaucoup parce qu'il faut essayer de lutter contre la sarcopénie, il faut essayer de lutter contre le syndrome de Benson. On essaye de faire des exercices avec plusieurs balles pour stimuler un petit peu la vision périphérique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas vous présenter tout aujourd'hui. Donc, si vous voulez qu'on en parle un peu plus,
je serai derrière. On se retrouve à la fin de cette conférence.
Et dernière chose, on a des patients qui sont avec nous depuis 5-6 ans, qui ont énormément évolué dans la maladie. Et on s'est rendu compte que les ancrages de mémorisation sont ultra importants au cours des exercices. Donc souvent, sur des situations clés pendant la séance, on va utiliser les mêmes mots. Et ces mots, on va les réutiliser toutes les semaines, toute l'année. Et on remarque que malgré l'avancée de la maladie, donc des patients qui n'arrivent plus à parler, on sent qu'il n'y a plus de connexion. On leur donne les mots déclencheurs et ils reviennent sur certaines situations. Donc, on a accompagné des patients jusqu'à 3 semaines avant le décès et il y avait encore des réactions. Donc, après, il y a des situations de jeu où ils vont être assis, il y a des situations où ça va aller très doucement, mais ils restent avec nous. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'évolution du programme. Donc, 72 lieux de pratique. Donc, il y a beaucoup de familles qui ont participé depuis 6 ans. Et la moyenne des premiers retours qu'on a eu de durée de participation, c'est 28 mois au cours des cycles. Voilà à peu près. Donc j'ai essayé de faire un petit peu vite.
Tu as fait très bien. Et en plus, c'est une activité qui ne demande pas un matériel énorme, un financement énorme. Et ça, c'est aussi un atout de plus.
Voilà. Donc les gros changements en 3 ans, c'est surtout qu'on a un peu plus déployé dans les institutions. Et qu'on a enrichi le programme en contenu parce qu'on a un peu plus de connaissances et des retours sur le terrain. Donc nous, on essaie vraiment de créer une communauté d'encadrants où on est tous connectés pour se partager des nouvelles publications, pour se partager un nouveau jeu, pour se partager aussi un témoignage d'aidant. Donc voilà. Donc si vous voulez plus de renseignements, je suis dispo derrière.
Super.
Et dernière chose aussi importante, ça sera toujours complémentaire à la recherche médicale. Donc, faites un don pour la recherche. Parce que moi, j'ai longtemps travaillé en sport après cancer. Et en fait, en sport après cancer, on se rend compte que le médical est toujours complémentaire avec le non médical. Et Alzheimer sera la même chose.
Et on ne dira jamais assez qu'il y a beaucoup moins d'argent pour la recherche contre Alzheimer que pour la recherche contre le cancer. Ouais. Merci de l'avoir rappelé.
Merci beaucoup
pour cet enthousiasme.